Soleil, qui es-tu vraiment? Et nous, là-dedans? Article paru le 24 septembre 2009. Physiquement, nos nains de laboratoire nous disent que ce n'est que des gaz à très haute température. Mais ils ne peuvent vraiment percevoir le pourquoi de ces éruptions solaires qui nous affectent tant. À croire qu'un cadavre accroché à une croix est l'incarnation de l'amour christique, il en est de même pour le soleil. Il n'est absolument pas ce que l'on croit qu'il est. D'après vous, si la croix est en bronze ou en bois, est-ce toujours le même amour? Partir de l'aspect physique d'une chose pour dire ce qu'elle est relève des gens de la mode où le paraître est archi-significatif et où l'intérieur ressemble forcément à l'extérieur. Si c'était le cas, alors pourquoi voyons-nous défiler des sacs d'os, des top modèles, dans les sociétés de l'abondance où l'obésité et les rondeurs sont monnaie courante? À ce jeu-là, le top modèle des affamés du monde entier doit fortement ressembler à l'obèse bien rondouillard trouvé dans une grotte des temps préhistoriques. Bref, la température du soleil ne dépasse pas les 50 degrés Celsius à sa surface intérieure. Par contre, son voile de protection, celui que l'on voit, n'est pas non plus à des millions de degrés comme le disent nos chers scientifiques. Ce qu'ils prennent pour des hautes températures ne s'applique pas à la matière, mais au corps spirituel. Prenez tout corps physique et exposez-le à 2000 degrés. Il se volatilisera sous forme de gaz. Mais qu'est-ce qu'un gaz? C'est beaucoup de vide avec quelques anneaux, quelques atomes qui sont à 99,99% du vide. Il faut donc alors parler d'énergie qui n'appartient plus au monde physique de la 3D. Quand une haute entité dit qu'elle ne peut nous approcher trop près ou trop longtemps sous peine d'une mort certaine, cela veut dire que notre corps physique serait totalement vaporisé par son énergie de très haute fréquence. Bref, si l'on envoie un bout de ferraille, un satellite vers le soleil, sa matière se désintégrera, non pas à cause de la chaleur en millions de degrés, mais par l'énergie spirituelle qu'il ne peut intégrer. Le résultat est le même. Mais l'explication est différente. Alors, que ressentez-vous quand vous êtes en joie? De la chaleur ou du froid? D'ailleurs, pourquoi associe-t-on le froid à la mort? L'esprit est l'élément feu matérialisé, mais qui ne peut s'exprimer qu'à travers les trois autres éléments, c'est-à-dire l'air, l'eau et la terre. Il est donc clair que lorsqu'une matière se frotte à l'esprit, il y a une élévation de température. Une matière ne peut être à des millions de degrés, mais un esprit peut être d'une fréquence d'amour incommensurable. Dit autrement, notre soleil, comme toute étoile, est un esprit vivant, qui se matérialise sous nos yeux sous une forme de lumière et de chaleur. La partie lumineuse est celle de l'essence masculine, tandis que la chaleur est son expression féminine. L'une est sa pensée et les informations qui vont avec, alors que l'autre est ce qui permet la vie matérielle, la matière. Un soleil, c'est un esprit ayant une idée à explorer dans un monde de matière appelé système solaire. Alors comment se forme un soleil et pourquoi a-t-il des planètes qui gravitent autour de lui? Tout d'abord, un soleil, c'est un couple père-mère qui a l'objectif d'expérimenter une idée. Et pour cela, il fera des enfants, c'est-à-dire des planètes, selon les 7 vibrations de couleur universelle. Mars est rouge, tandis qu'Urantia est bleu. Est-ce une erreur? Eh bien non, pas du tout. Urantia est le rayon bleu de l'expérimentation de notre système solaire, tout en sachant que sa surface est verte. Le bleu, c'est l'action dans la matière, mais aussi le verbe créateur, 5e chakra, tandis que le vert est l'amour, 4e chakra. L'eau, c'est l'émotion, et nous sommes sur une planète d'eau. Alors, quelle est la finalité d'Urantia? Expérimenter l'amour-émotion dans la matière. Comprenez-vous pourquoi nous sommes une vraie poubelle émotionnelle? Nos frères, les martiens, jupitériens, vénusiens, mercuriens, Edo et autres, n'ont pas du tout notre problématique. Si c'était le cas, on verrait leur planète aussi bleue que la nôtre, et l'on ne se sentirait pas tout seul au monde, paumé dans cette immensité froide où brillent quelques luminaires très très lointains. La question est donc, d'où vient notre soleil? Il vient d'un autre soleil qui lui a dit « Mon enfant, va expérimenter cela car j'ai besoin de savoir. » Un soleil est donc un maillon d'une chaîne qui part de la source. C'est à l'image d'un collier qui, partant d'un cercle initial, va se démultiplier à l'infini dans toutes les directions. C'est comme une sorte de broderie qui, partant d'un point central, va s'expanser vers des cercles de plus en plus larges vers l'extérieur. Sans tomber dans le détail, notre système solaire est raccroché à l'une des mailles de cette broderie. Le but de cette broderie est que le sans-nom puisse découvrir qui il est, et cela dans toutes les directions possibles. Chaque soleil est une maille d'expérimentation matérialisée. Il y a donc un mouvement d'expulsion, de séparation dans un premier temps, et ensuite un mouvement inverse de retour au bercail, afin de rapporter les infos à celui, la même, qui a été à l'origine du mouvement. Cette expulsion ne se fera pas dans le désordre et suit des règles bien précises. Ces règles cosmiques et divines sont inscrites dans notre étincelle de vie, cette particule d'esprit qui est logée dans notre cœur physique. Au passage, si vous pensez que votre esprit est dans votre tête, alors rectifiez cette croyance, car c'est celle qu'utilise votre mental ego pour vous dominer. Votre cerveau est un ordinateur, mais pas celui qui pianote sur le clavier. Cette particule sans air, comme il est souvent mentionné dans les canalisations, est sans air car elle ne peut être oxydée par l'oxygène. En effet, le feu contenu dans l'air est précisément ce que nous appelons l'oxygène. En clair, votre particule d'esprit ne peut être brûlée puisqu'elle est la flamme elle-même. Quand vous verrez le feu brûler le feu, je vous conseille lourdement d'aller vous coucher pour dessouler ou faire que les vapeurs du joint se dissipent. Cette particule d'esprit, qui est en chacun de nous, n'est qu'une petite partie de notre esprit, car avant de s'incarner dans la densité, dans le noir, on a pris des précautions. Sinon, l'expérience humaine serait terminée depuis longtemps. Afin de vous expliquer le fonctionnement réel, il nous faut faire un peu d'histoire pour bien comprendre. Quand nos grands-parents, le couple parental de notre soleil, décidèrent qu'il fallait aller expérimenter une couleur précise de leur propre histoire d'amour, ils conçurent notre soleil physiquement parlant. Ce foetus cosmique appela donc une entité volontaire et autorisée à venir l'habiter. Cette entité est représentée par le couple Hélios et Vesta. En effet, petite précision, toute entité père-mère est forcément un couple masculin-féminin ayant réalisé l'unité. Vous comprenez pourquoi, à notre petit niveau humain, nous cherchons toujours une autre moitié afin de faire des petits. C'est idem à l'intérieur de nous, en unissant notre polarité masculine et féminine. J'en profite au passage pour dire que la notion de fusion préhumaine n'est pas le mélange pour ne fabriquer qu'une seule matière et donc une perte d'identité, mais plutôt la collaboration extrêmement fine de deux polarités complémentaires. Bref. Une fois le couple père-mère, Hélios Vesta, incarné dans notre soleil, il aura fallu sélectionner les entités qui seraient à la hauteur de l'expérimentation. Suite à une pub cosmique, plein de prétendants se sont pointés avec leur CV angélique afin d'avoir un job, enfin, de quoi s'occuper. Au bout d'un certain temps, la sélection fut close. Hélios et Vesta avaient un régiment de volontaires suffisant pour démarrer l'expérience dont ils avaient pris la responsabilité. Pour bien nous reconnaître, chaque entité volontaire, un esprit directeur, se vit remettre la tenue de combat spécifique à ce régiment afin de ne pas être confondu avec les autres entités extraterrestres qui viendraient visiter les futures planètes du système solaire. Ce costume, on l'a appelé l'humanité. Ces vénards sont tous des esprits directeurs venant de toutes les galaxies existant dans le 7e super-univers. En effet, un esprit qui part de la source va commencer à faire ses classes dans le premier super-univers, puis passera dans le second, et ainsi de suite. En clair, les esprits directeurs embauchés dans le régiment Humanité sont les meilleurs mercenaires et casse-couilles de tous les temps. En effet, la mission de l'Humanité a été d'aller dans la plus profonde de toutes les densités jamais connues de tous les temps. Des précautions furent donc prises pour éviter d'envoyer à une mort certaine les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Cela consista à couper le soldat initial en plusieurs morceaux. Vous savez, en esprit, on peut tout faire. Il fut donc décrété que l'esprit directeur du soldat resterait sur le soleil, tandis que certaines parties de lui iraient expérimenter. Pour éviter tout problème d'équilibrage cosmique, l'esprit directeur envoya une moitié de lui-même vers la source, que l'on appela l'esprit descendant. Pourquoi l'esprit descendant? Pour la simple et bonne raison que c'est qu'il va descendre de la montagne, tandis que l'autre va s'envoler vers l'inconnu. Il n'aura donc pas de corps, pas de timing, mais devra se rapprocher autant de la source que l'autre, l'esprit ascendant, qui va s'en éloigner. En effet, d'après vous, pourquoi sommes-nous à la recherche de la lumière dans notre noirceur quotidienne? Qu'est-ce qui nous pousse à cela? Eh bien maintenant, vous avez la réponse. Il y a le frérot Otokiwaki. Eh oui, nous les préposés à l'ascension, nous sommes en liaison permanente avec notre moitié spirituelle qui fait de son mieux, pour nous rappeler à nous-mêmes quand nous sommes au fond du gouffre, au fond du non-amour, au fond des ténèbres, au fond de la pire noirceur. Le seul truc, c'est que notre frère, l'esprit descendant, n'est pas mortel, puisqu'il n'a pas de corps dans la matière. C'est nous qui sommes venus expérimenter cette matière et d'une certaine façon de la spiritualiser en élevant sa vibration. Le temps étant compté, mouvement des astres oblige, notre esprit ascendant peut s'incarner dans 8 corps à la fois, et cela sur n'importe quelle planète de notre système solaire, voire ailleurs si nécessaire. En effet, à chaque fois que l'on meurt, notre étincelle d'esprit retourne au soleil, rendre des comptes à notre esprit directeur qui pilote l'équipe. En effet, il a d'un côté celui qui flotte en direction de la source et qui risque de roupiller, et de l'autre côté 8 petits soldats en pleine mouise. Donc, à chaque fois que l'on revient du front, nous, les esprits ascendants, on fait un rapport détaillé de ce que l'on a compris, mais aussi de tout ce que l'on a foiré. Suite au débriefing, de nouvelles missions sont élaborées en accord avec les autres esprits directeurs. En effet, faisant tous partie du régiment, chaque esprit directeur se doit à son tour d'en référer à Helios et Vesta. Ainsi, au fil des incarnations, nos chefs, ayant toute la responsabilité de l'expérimentation solaire, vont orienter les actions à mener. C'est ainsi que naquirent tour à tour les planètes. En effet, au fur et à mesure de l'expérimentation d'une couleur, il a fallu donner un support pour les couleurs suivantes. Donc, notre étincelle de vie n'est que la partie qui nous maintient en contact avec notre frère descendant. Puis ce n'est qu'à notre mort que l'on rencontre notre sergent, qui est notre esprit directeur, lui-même aux ordres du général. Tout ceci était un bon plan, mais comme d'hab, quand on s'aventure en milieu inconnu, il y a forcément des imprévus. Le premier fut qu'à suivre les axes déterminés d'avance, eh bien on se plantait lourdement, car on revenait avec rien de nouveau. Il fut donc décidé de changer les règles du jeu et d'y aller au culot, et selon les humeurs du moment, on appela cela la chute. En clair, on a sauté du haut de la falaise de l'amour, sans aucun parachute, en se disant que le sans-nom avait forcément prévu un matelas en bas, puisqu'il est amour inconditionnel total. Et c'est là qu'on a déchanté, puisque l'on s'est écrasé comme des œufs crus sur du granit. Notre étincelle de vie n'appartenant pas à la densité a pu chaque fois revenir à la maison, heureusement, pour faire son petit rapport. Par contre, en bas, l'omelette est devenue costaude, au point qu'elle eut sa propre vie. On l'appela âme. Depuis ce jour, chaque étincelle de vie qui s'incarne est obligée de s'engluer dans l'âme, car sans elle, elle ne peut plus atteindre la matière densité directement. On a donc créé ce qui n'existait nulle part ailleurs, l'omelette. Cette nouvelle entité garde toutes les mémoires karmiques, car incidemment, à cause ou grâce à cet étouffement, nous fûmes tellement séparés de l'amour divin que notre armure densifiée s'est mise à rouiller. En clair, la maladie est apparue, et donc, in fine, la mort. Enfin, on avait créé quelque chose qui n'existait pas. C'est vrai que ce n'était pas du jeu, que ce n'est pas du jeu d'être immortel sur un champ de bataille. À la longue, on a vraiment envie de se prendre une vraie raclée pour savoir ce que cela veut dire. Jouer pour de vrai dans une vraie réalité. C'est vrai qu'il y en avait marre de dire à l'autre qui t'a coupé la tête que c'était pour du beurre. Fort de cette nouvelle forme d'expérimentation de l'amour, notre père-mère décida de créer quelques planètes complémentaires pour expérimenter certaines facettes fort passionnantes. La plus balèze et la plus excitante fut celle de l'émotion. En effet, les Martiens cognaient dur, mais ils ne sentaient rien, style les Normands dans Astérix. Et puis, certains mortels commencèrent à gémir, à se plaindre, à pleurer, à souffrir. Cette forme de non-amour sembla être totalement nouvelle. Alors il fut décidé de faire un bac à sable spécifique. Il se trouve que c'est là où nous sommes actuellement. Imaginez, nous pouvons vivre la passion, le déchirement, l'extase, mais aussi la dépression totale. Waouh, on en est là. On est là où il y a du fun, où il y a des trucs, les trucs les plus déjantés, et on s'éclate. On peut dire qu'à ce titre, on est des fêtards hautement qualifiés et que l'on nous envie un peu. Mais bon, comme à toute bringue, il faut bien que cela se termine un jour, sinon le mal de crâne est terrible, sans compter les jérémiades et les regrets. Donc en revenant au soleil, c'est en fait le QG qui nous envoie les provisions et les directives, tandis que notre cœur, où se situe notre étincelle de vie, sert de talkie-walkie avec notre frère qui se rapproche de la source et qui doit quand même forcer un peu pour nous laisser l'espoir de regarder vers un monde meilleur. Sans lui, on serait vraiment des zombies, d'où cette absolue nécessité d'écouter notre cœur sans ça. C'est forcément la conduite de nuit, sans phare, dans une jungle non éclairée et en sens interdit. Bref, en résumé, ce que nous appelons l'humanité n'est qu'un regroupement de volontaires, d'esprits directeurs, qui travaillent pour la même cause, aller creuser l'idée à expérimenter du « trouve ce qui n'existe pas ». Cet exercice nous a amené à créer malgré nous l'âme, aussi bien celle des animaux que de nous-mêmes. C'est seulement en tant que préhumain que nous avons un champ limité d'action dans l'âme. C'est à l'image du soldat qui possède une mini-liberté d'action pour sauver sa peau malgré tous les règlements. Donc arrêtez de croire que votre âme vous appartient, car en fait vous n'êtes que ponctuellement responsable d'une toute petite partie de l'omelette. En tant que petits soldats individualisés, nous portons en nous quelques cicatrices spécifiques, mais elles sont vraiment du pipi-tcha par rapport au tableau global. Imaginez, c'est comme se sentir coupable d'avoir tué un ennemi, qui n'est qu'une partie de vous-même en tant qu'humanité, lors d'un combat où les morts se comptent en milliards. Tous ceux qui ont suffisamment gratté le nettoyage de leur karma personnel arrivent un jour ou l'autre à devenir des maîtres, parce qu'ils ont découvert qu'il était tout simplement impossible de nettoyer l'omelette globale. On peut ôter la pellicule égotique de notre karma dans cette vie. Mais croyez-moi, arrêtez de croire que vous pourrez nettoyer votre karma. C'est tout simplement impossible, puisque cela reviendrait à dire que nous devrions tuer l'âme, c'est-à-dire notre propre création et chef-d'œuvre. Qui voudrait tuer son cosse unique au titre qu'il est indigne d'être un parent? Vous êtes parent et le sans-nom vous l'a demandé de l'être, et vous y êtes allé de tout votre cœur et de toute votre dévotion à son amour. Bref, comprenez-vous pourquoi il nous est demandé d'aimer inconditionnellement les autres, nous, notre vie, notre corps, nos expériences, nos souffrances et notre karma? Quand vous cesserez d'être en opposition avec votre propre création, alors vous aurez la possibilité de vous élever au-dessus, pour comprendre qu'un gosse, même turbulent, est quand même la vie dans son expression créative. Arrêtons de nous juger et nous cesserons de juger les autres. Rien que cela vous permettra de pouvoir rester centré, car regardez bien autour de vous. La déconstruction est aussi importante que la construction. Arrêtez donc de pleurer sur votre sort, votre vie, votre corps, votre karma, car en fait, c'est toute la richesse que les autres nous envient. Vous, qui croyez n'être qu'un grain de sable dans une broyeuse, n'êtes en fait que le sans-nom en action, tout simplement. C'est grâce à l'amour colossal que nous avions pour le sans-nom que nous nous sommes engagés dans cette expérimentation unique. Soyez fiers d'être ce que vous êtes, car des milliards et des milliards d'entités de tous les univers auraient voulu être à votre place. Ascensionnons et vous verrez enfin la vraie vérité de ce que vous êtes, et vous comprendrez vraiment que les autres sont véritablement nos miroirs, car nous faisons tous partie du même régiment, en pleine omelette, baveuse à souhait.